Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 8. 13 août 2025. Laurent Briard avait développé un algorithme super performant avec son équipe de l'Observatoire de Paris. C'était aujourd'hui l'algorithme de référence qui était utilisé sur les images du télescope synoptique de l'Observatoire Vera Rubin. C'était ce qu'on appelait un traitement de tri et rejet. L'observatoire Vera Rubin avait vu sa première lumière en avril. Il suivait l'évolution du ciel avec un très grand champ de vue, ce qui produisait des images en si grande quantité que les données correspondantes se comptaient en dizaines de pétaoctets. Mais l'observatoire Vera Rubin avait été imaginé bien avant l'essor brutal des constellations de satellites, proposant un accès à l'Internet sur l'ensemble du globe au début des années 2020. Les astrophysiciens et ingénieurs n'avaient initialement pas prévu le nombre considérable de satellites qui parcourraient la voûte céleste à chaque instant. Et comme ces satellites reflétaient la lumière du Soleil dans tout le spectre électromagnétique, et pas uniquement dans le domaine visible, accessible aux yeux des gens sans instruments, ils étaient très bien détectés dans les images du télescope Vera Rubin, comme dans d'autres télescopes terrestres. Comme les télescopes produisaient des images en faisant des pauses de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, pour capter un maximum de photons en provenance de sources astrophysiques lointaines, le passage d'un satellite ou d'un train de satellites brillant dans le champ de vue du télescope produisait une ou plusieurs traînées lumineuses qui barraient l'image, la rendant la plupart du temps inexploitable. Laurent suivait un indicateur sur le logiciel de traitement qui donnait le pourcentage d'images qui étaient à mettre à la poubelle à cause des traînées de satellites, et donc rejetées par l'algorithme. Ce taux de rejet était variable au cours de la nuit, du fait du passage des satellites dans l'ombre de la Terre, en milieu de nuit. Il était maximum au crépuscule et à l'aube, et minimal durant le tiers central de la nuit, avec des valeurs qui atteignaient désormais 42% le soir, 41% le matin et 13% en milieu de nuit. Globalement, les passages de satellites provoquaient la perte de 32% de toutes les images produites par l'observatoire Vera Rubin. Les astronomes professionnels avaient commencé à saisir l'ampleur de l'impact des constellations de satellites de communication en 2020. Pour essayer de quantifier concrètement l'impact sur les programmes scientifiques, la National Science Foundation et l'American Astronomical Society avaient organisé une rencontre regroupant près de 250 professionnels, astrophysiciens et ingénieurs de sociétés spatiales, à laquelle Laurent avait participé. Ils avaient rédigé un rapport volumineux exposant les faits observés à l'époque, ainsi que des prédictions, tout en explorant des solutions de mitigation des effets désastreux qu'auraient des dizaines de milliers de satellites. Les effets des constellations de satellites étaient bien catastrophiques pour la science. Le rapport disait que les outils d'observation les plus touchés seraient les télescopes optiques à grand champ, qui étaient dédiés à imager tout le ciel en continu à la recherche d'événements transitoires, comme le Vera Rubin Observatory et son grand télescope de 8,4 m. Les domaines touchés étaient très nombreux, allant de l'étude des populations d'étoiles dans notre galaxie et les galaxies proches, à la recherche d'astéroïdes géocroiseurs, en passant par l'identification de sources d'ondes gravitationnelles par leur contrepartie optique, ou encore la recherche et l'étude d'exoplanètes ou de supernovas. Des simulations de visibilité avaient été effectuées par les chercheurs pour la Réunion, en prenant en compte 30 000 satellites de seconde génération de Skylink situés à moins de 614 km d'altitude, et 48 000 satellites de ThreeWeb positionnés à 1200 km. Les résultats indiquaient que pour toutes les altitudes, leur visibilité restait constante durant toute la durée du crépuscule, jusqu'à ce que le Soleil soit à 18 degrés sous l'horizon. Mais il y avait une différence cruciale entre les satellites positionnés à 600 km et à 1200 km. Les satellites les plus hauts étaient visibles non seulement en début et en fin de nuit, mais aussi durant toute la nuit en été, n'entrant jamais dans l'ombre de la terre. Et il n'y avait pas que les traînées lumineuses qui apparaissaient lors des longues pauses. Un éclat sporadique ou périodique important pouvait aussi induire des artefacts non corrigeables sur les imageurs des télescopes. Avant 2020, des discussions avaient déjà eu lieu entre les scientifiques et des sociétés comme Galactix, qui avait à l'époque déjà mis en orbite près de 600 satellites Skylink en 9 lancements. Galactix et sa filiale Skylink avaient montré qu'il était possible de réduire l'albédo de ces satellites en les orientant différemment, en ajoutant un écran ou bien en les peignant en noir. Mais ces solutions étaient bien loin d'être parfaites. La peinture noire produisant un échauffement du satellite néfaste pour son électronique, celle-ci n'avait finalement pas été retenue par Skylink. Le rapport disait que les constructeurs pourraient aussi fournir aux observatoires les trajectoires très détaillées, de manière à ce qu'elles soient connues à l'avance et que les observations astronomiques soient adaptées en conséquence. Mais cela n'enlèverait pas le fait qu'un temps d'observation conséquent serait perdu à jamais. Ironie du sort, c'est durant la rédaction du rapport à l'été 2020 que le concurrent américain de Léon Misk, le milliardaire Joe Bezos, avait reçu l'approbation du premier gouvernement Trump pour lancer les 3236 premiers satellites de sa constellation Oort. Le rapport Impact of Satellite Constellations on Optical Astronomy and Recommendations Towards Mitigations fournissait non seulement une série de résultats scientifiques parmi les plus aboutis techniquement sur le problème, mais il donnait aussi 10 recommandations. 3 pour les observatoires, 4 pour les sociétés spatiales et 3 pour les deux acteurs ensemble. Pour les observatoires, on y lisait, premièrement, développer des logiciels de traitement d'images permettant d'identifier, modéliser, soustraire et masquer des traînées de satellites. Deuxièmement, développer des logiciels de planification via la prédiction des heures de passage et des trajectoires des satellites. Troisièmement, développer des simulations des effets sur l'analyse de données du masquage des traînées de satellites pour déterminer un seuil de tolérance. Pour les sociétés spatiales, les recommandations négociées étaient bien tièdes. Premièrement, faire systématiquement des mesures de réflectance poussées bidirectionnelles lors du design des satellites en plus de simulations. Deuxièmement, faire en sorte que la lumière solaire réfléchie varie lentement avec la variation de la phase orbitale telle qu'elle est vue par un télescope à grande ouverture et grande étendue. Troisièmement, faire en sorte de ne pas créer des réflexions spéculaires, des sursauts de luminosité, dans la direction des observatoires, ou bien avoir un moyen de prédiction et de prévention à envoyer aux observateurs. Et quatrièmement, regrouper le plus possible les trains de satellites après le lancement, permettant un passage rapide à travers la zone de pointage du télescope, et ajuster leur orientation pour minimiser la lumière réfléchie. Enfin, parmi les dernières recommandations qui étaient destinées aux observatoires et aux sociétés spatiales ensemble, on pouvait lire « Premièrement, développer rapidement un effort coordonné d'observation des unités constituant les constellations, afin de les caractériser avec la plus grande précision. Deuxièmement, déterminer la qualité des informations de position, de télémétrie, etc., afin d'améliorer substantiellement les données de position de chaque satellite. » Un facteur 10 en précision était nécessaire, information devant être disponible pour le public. Et troisièmement, adopter un nouveau format standardisé pour ces données de position, incluant les erreurs statistiques. Il ne s'agissait que d'une liste de recommandations, sans aucun critère contraignant. Concrètement, Skylink, ThreeWeb et les autres sociétés qui se battaient sur ce nouveau marché se soucier de la recherche astronomique comme de la première couche culotte de leur patron milliardaire. Ils n'avaient rien respecté depuis les 5 années qui s'étaient écoulées depuis la parution du rapport. La plupart des astrophysiciens du monde entier s'accordaient pour dire que la seule façon de supprimer l'impact des constellations de satellites sur les télescopes optiques et infrarouges c'était de ne pas en lancer du tout. 5 ans plus tard, Laurent, comme d'autres, estimait qu'il aurait été plus utile de commencer par là, dans les recommandations, sans devoir accepter le fait accompli imposé par une poignée de capitalistes acharnés qui profitaient de l'absence de régulation nationale ou internationale sur la luminosité maximale des satellites. Laurent avait remarqué que l'augmentation du taux de rejet était en augmentation significative depuis une semaine environ. Le taux de rejet global augmentait naturellement compte tenu du nombre toujours croissant des satellites qui étaient lancés chaque semaine. Cette augmentation était à peu près constante depuis 2022. Laurent avait écrit un petit logiciel de contrôle des résultats de l'algorithme de tri qui donnait la courbe du taux de rejet en fonction du temps. Pour les périodes du crépuscule et de l'aube, cette courbe était une droite dont la pente était légèrement croissante. Sa dérivée par rapport au temps était donc positive et quasi constante. Pour la période du milieu de nuit, l'évolution était un peu différente. La pente était certes croissante et monotone, elle aussi, mais beaucoup moins marquée. Cela était dû au fait que les satellites qui étaient visibles en milieu de nuit étaient ceux qui se trouvaient à des altitudes plus élevées, à plus de 1000 km. Or, il n'y avait que la constellation Oort qui envoyait des satellites sur ses orbites, à la limite de ce qu'on appelait l'orbite basse. Et la société de BESEF faisait 10 fois moins de lancements que celle de MISC. Le nombre de satellites visibles en milieu de nuit croissait ainsi 10 fois moins vite que celui des satellites visibles le soir et le matin. Dans son programme Python, Laurent affichait non seulement le taux de rejet que produisait l'algorithme principal, mais aussi la dérivée de ce taux de rejet par rapport au temps, qu'il appelait alpha, et la dérivée de cette dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde du taux de rejet, qu'il appelait bêta. La valeur de cette variation de l'augmentation du taux de rejet oscillait habituellement autour de zéro. L'augmentation du taux de rejet était constante sur les 3 périodes de la nuit. Cela s'expliquait par le rythme de croisière qu'avaient atteint les lancements de satellites depuis 3 ans, toutes sociétés confondues, et dont Skylink faisait la grande majorité. Mais ce que Laurent voyait sur son écran lui semblait être une anomalie. Depuis 3 jours, le facteur bêta, qui était la pente de la courbe du facteur alpha, était systématiquement positive. Il demanda à Yasmila Krikeb, la doctorante du groupe qui partageait son bureau et qui travaillait sur les images de l'observatoire Vera Rubin, si elle avait constaté quelque chose d'anormal depuis quelque temps dans les données qui arrivaient en flux continu depuis le Chili. Non, je n'ai rien remarqué de particulier, répondit la jeune femme. « Il y a quelque chose qui cloche ?»« On dirait, hein. J'ai la dérivée du taux de rejet qui augmente sensiblement depuis quelques jours. Et ça apparaît dans toutes les périodes de la nuit en même temps. »« C'est pas les perséides quand même ?» demanda Yasmina. « Non, les météores sont noyés dans les Skylink. Hein. Ça peut pas être dû à ça. Je vais regarder à quoi ressemblent ces images rejetées, on verra bien. » rétorqua Laurent. Même si elles étaient considérées comme inutiles pour être exploitées, les images rejetées par l'algorithme de tri, même si elles occupaient une taille de stockage conséquente, n'étaient pas toutes mises à la poubelle de l'histoire des sciences. Un échantillon aléatoire était conservé à des fins de contrôle, et c'est dans cet échantillon enregistré depuis le début du mois d'août que Laurent alla piocher. La première image qu'il ouvrit montrait une portion du ciel qui était traversée par une traînée typique de Skylink. Laurent avait créé un petit logiciel quelques mois plus tôt qui permettait de déterminer si la trace visible était celle d'un satellite de constellation répertorié dans la base de données globale. Il donnait même le nom du ou des opérateurs de satellites responsables de la perte de l'image. Il y avait parfois plusieurs traînées qui provenaient de satellites d'opérateurs différents. Mais la très grande majorité des résultats donnait le nom de Skylink. Sans surprise, la réponse de la moulinette sur cette première image fut le nom de la société de MISC. Laurent avait vu juste. Il parvenait maintenant à reconnaître à l'œil la nature des traînées lumineuses dans les images. Il ouvrit une deuxième image. On y voyait 3 traînées parallèles qui traversaient tout le champ. Laurent comprit tout de suite que c'était là encore des Skylink, ce que lui confirma son logiciel. La 3e image que Laurent ouvrit le surprit. On y voyait plusieurs traînées, six en tout, mais qui n'étaient pas parallèles entre elles, provenant plutôt d'un point commun, ressemblant plus à une pluie d'étoiles filantes, mais beaucoup plus brillantes, comme six bolides simultanément. Cela n'arrivait jamais avec des météores, même dans les années les plus fastes pour les perséides ou les géminides. Il lança tout de même sa moulinette Python sur cette image, et sans surprise, elle ne lui donna aucune réponse sur l'origine de ces traînées lumineuses. « Yasmina, regarde un peu ça !» lança Laurent à sa doctorante. La jeune femme s'approcha de l'écran. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est ça qui augmente le rejet depuis plusieurs jours. » « C'est pas des satellites, ça ?» reprit Yasmina. « Non, clairement, c'est autre chose !» répondit Laurent. « Ça ressemble beaucoup à des météores, mais six gros comme ça, dans la même image, de quelques secondes de pause... »« Ouais, je me suis dit la même chose, c'est impossible, ça, ça n'existe pas. »« Et si c'était des débris de X-Rism qui retombent ?» lança Yasmina. « Des débris qui retombent ?»« Je me dis que ça pourrait ressembler à ça, s'ils sont suffisamment gros. » En brûlant pendant leur rentrée atmosphérique, ça pourrait produire des traces de bolides, comme ça. Oui, mais X-Rism, il a été fragmenté mi-juillet. Je pense pas que ces débris puissent redescendre en seulement un mois. Ah, il faudrait demander à des spécialistes, répondit Yasmina. Oui, ça serait plus pertinent. Mais tu te rends compte, hein, si c'était ça? Ça voudrait dire qu'avec cet indicateur de rejet, on pourrait suivre le nombre de satellites qui sont fragmentés. Alors qu'elle était dans le métro pour retrouver son copain pour une soirée théâtre, Yasmina se remit à penser à ce qu'elle avait vu dans l'après-midi. Les images que Laurent lui avait montrées et qui étaient responsables de l'augmentation du nombre d'images inexploitables du télescope Vera Rubin étaient très similaires. Quand Laurent était parti faire une réunion en début d'après-midi, Yasmina avait réouvert le répertoire spécial où étaient stockés les échantillons d'images rejetées les plus récentes. Lorsqu'il n'y avait pas de fines traînées caractéristiques des satellites Skylink ou d'autres constellations équivalentes, ce qu'on voyait ressemblait à des gros météores dont le point d'origine semblait complètement aléatoire. Yasmina était quasi certaine qu'il s'agissait d'un phénomène atmosphérique et non d'une réflexion solaire sur la surface de satellites. Ce qu'on appelait une étoile filante était produit par un grain de poussière cométaire typiquement d'une taille inférieure au millimètre et qui se volatilisait entièrement en une fraction de seconde à des altitudes supérieures à 100 km. Quand la Terre traversait un nuage de poussière au cours de son évolution autour du Soleil, il se produisait un essaim de météores. Ce qu'on appelait un bolide, en revanche, était issu d'un météoride ayant un diamètre qui pouvait être de l'ordre du centimètre et jusqu'à quelques décimètres avant d'entrer dans l'atmosphère. Dans ces cas, le petit caillou pouvait ne pas se volatiliser complètement et finir par laisser tomber un petit grain sur Terre. Et les objets les plus gros pouvaient se fragmenter au cours de leur entrée atmosphérique, en arrivant vers 70 ou 50 km d'altitude. À partir de 30 km d'altitude, les fragments résiduels ne produisaient normalement plus de phénomènes lumineux, et ils tombaient en chute libre. Yasmina avait rendez-vous avec Erwan sur la place de l'Opéra pour aller au théâtre. Elle avait repéré une pièce qui était jouée dans un petit théâtre et qui parlait de l'enfance d'Albert Einstein. Cette pièce avait reçu de nombreuses critiques positives, et Yasmina pensait qu'elle lui plairait. En arrivant sur les marches de l'opéra, Yasmina ne vit pas Erwan. Elle était un peu en avance, comme toujours. Elle pensait encore à ses grosses traînées dans les images de Vera Rubin. Et puis, elle se rappela soudain qu'il existait un programme de recherche qui était dédié uniquement à la détection de bolides, dans le but de récupérer des météorites pour les étudier. Elle ne se souvenait plus du nom exact de ce programme. Elle se rappelait juste que c'était un acronyme un peu amusant. Normalement, si le Vera Rubin commençait à voir une nette augmentation de météores de type bolide, le programme d'observation dédié, qui était sensible aux plus lumineux d'entre eux, devrait également en observer une recrudescence. Il fallait qu'elle les contacte au plus vite.
En attendant Erwan, Yasmina sortit son téléphone et rechercha le nom de cette collaboration. Elle se souvenait que c'était un projet qui associait des amateurs non scientifiques pour la recherche des météorites une fois que la trajectoire avait pu être déterminée à l'aide des images de multiples caméras installées un peu partout sur le territoire français. De la science participative. Yasmina retrouva assez vite le nom de ce programme. RIPON. Fireball Recovery and Interplanetary Observation Network. C'était une collaboration entre plusieurs équipes de plusieurs universités françaises et le Muséum National d'Histoire Naturelle, qui existait depuis maintenant 12 ans et qui fonctionnait toujours. FRIPON était un réseau qui visait à retracer l'origine des flux de matière extraterrestre tombant sur Terre. Il surveillait le ciel H24 à partir d'une centaine de caméras et de récepteurs radio répartis aux quatre coins de l'hexagone, qui en comportait plus que quatre. Le calcul de la trajectoire 3D d'un météore nécessitait la prise en compte d'au moins deux images provenant de deux stations. L'origine du météoride causant le bolide, et donc la météorite, pouvait ainsi être déterminée grâce au calcul de son orbite héliocentrique, qui était dérivée du début de sa trajectoire dans l'atmosphère. Le réseau optique de FRIPON permettait d'observer chaque bolide depuis plusieurs endroits, de manière à pouvoir réaliser une triangulation pour déterminer précisément son orbite et le lieu de chute. Chacun des sites d'observation était composé d'une caméra fisheye pour imager le ciel à 360 degrés. Un tel réseau dense de caméras était suffisant pour avoir une précision kilométrique dans le calcul de l'ellipse de chute. Il ne restait alors plus qu'aux scientifiques à fournir la zone de recherche aux citoyens pour qu'ils trouvent rapidement la météorite fraîchement tombée. Mais le réseau de caméras n'était pas suffisant pour calculer précisément les orbites et l'origine des objets entrant dans l'atmosphère. Le réseau FRIPON s'était ainsi amélioré au fil des années par l'ajout du radar GRAVE pour mieux estimer la vitesse des bolides. GRAVE était un radar de l'armée française qui était dédié à la surveillance des satellites et des débris spatiaux. L'émetteur à 143 MHz était situé près de Dijon. Et le réseau FRIPON était composé de 20 récepteurs dispatchés sur une grande zone qui captaient les échoradars des traces d'ionisation laissées dans l'atmosphère par les bolides. « Tu m'attends depuis longtemps ?» Yasmina sursauta. C'était Erwan. « Oh, salut je viens juste d'arriver. On y va ?»« Allez, c'est par là !» fit Yasmina en rangeant son téléphone dans sa poche d'une main et en pointant son doigt vers les grands boulevards. Il faisait une chaleur torride, même encore à 21h. Les rues de Paris, le 13 août, étaient impressionnantes de vide. Très peu de voitures et de vélos, très peu de piétons également. On entendrait presque des oiseaux. Yasmina savait que c'était la semaine de l'année qui était la plus désertée aussi dans les laboratoires de recherche et la plupart des observatoires. Il n'y avait guère que les doctorants qui étaient encore à leur poste de travail et quelques enseignants-chercheurs comme Laurent qui essayaient de profiter à plein des vacances universitaires pour avancer au maximum sur leur activité de recherche. Il savait qu'à partir du mois de septembre et au moins jusqu'en janvier, il serait accaparé par les enseignements sur plusieurs campus et les multiples tâches administratives que l'université leur imposait d'effectuer. Le mois d'août était un mois béni pour eux. La jeune doctorante espérait pouvoir trouver un responsable du programme FRIPON qui aurait le même dévouement que Laurent dans cette torpeur estivale. La collaboration semblait assez vaste entre le Muséum National d'Histoire Naturelle, l'Université de Paris-Saclay et celle d'Aix-Marseille. Yasmina se disait qu'elle trouverait bien un enseignant-chercheur futé qui pourrait lui confirmer qu'ils observaient une recrudescence de bolides depuis quelques jours. « On dirait que t'es ailleurs. À quoi tu penses ?» demanda Erwan. « Oh, rien. Au boulot. T'as des soucis ?»« Non, pas directement, mais ça pourrait. » C'est quoi ? Oh, on vient de trouver des trucs pas très cool dans nos images. Je t'avais déjà parlé, hein, des traînées des satellites. Ce qui fait qu'on doit mettre plein d'images à la poubelle parce qu'on peut pas les utiliser. Ouais. Eh ben, on vient de voir que le nombre d'images foutues est en train d'augmenter et que ça serait pas à cause des Skylink. Ça serait à cause de quoi? Je sais pas encore, mais j'ai une petite idée, répondit Yasmina. Les deux jeunes gens marchaient main dans la main dans la direction du théâtre qui n'était plus très loin. Ce qu'on voit dans les images rejetées, c'est des grosses traînées qui ressemblent fortement à des gros météores, ce qu'on appelle des bolides, hein, tu sais. Des rentrées atmosphériques de petites météorites qui brûlent dans l'atmosphère et qui parfois arrivent jusqu'au sol. Tu dis qu'il y en a de plus en plus? C'est pas normal ça, non? Pas très normal, hein. Parce qu'en ce moment, c'est les Perséides, hein, tu vois. Mais l'essaim des Perséides, ça produit pas des gros bolides comme ça. Et il n'y a pas de raison que ça augmente fortement. Ça serait quoi pour toi? Ah, je pense que ça pourrait être les rentrées atmosphériques de débris de satellites. Des débris de satellites? Ouais, en fait, il y a eu une destruction accidentelle de satellites il y a à peu près un mois. Un télescope spatial japonais a été percuté par des débris, ce qui a provoqué sa fragmentation partielle. Ça pourrait être des morceaux issus de cet impact qui commencent à retomber dans l'atmosphère. Mais c'est juste mon idée, hein, pour l'instant. Il faudrait déjà qu'on ait d'autres sources qui puissent nous confirmer que ce qu'on voit, c'est bien des bolides atmosphériques et pas autre chose. Dès son arrivée au bureau déserté, Laurent n'étant pas là aujourd'hui, Yasmina récupéra les adresses mail d'un maximum de chercheurs impliqués dans la collaboration Fripon. C'était aujourd'hui ou jamais. Le lendemain était un vendredi et c'était le 15 août. Autant dire le néant. Elle décida d'envoyer son mail à toute la liste en copie afin que tout le monde soit mis au courant en même temps. Elle y expliquait ce que Laurent et elle avaient vu dans les images rejetées de l'observatoire Vera Rubin, et elle disait que cela ressemblait à des gros météores de type bolide, et assurément pas à des traînées de satellites comme ils avaient malheureusement l'habitude d'en voir. Et elle leur demandait, en s'excusant platement du dérangement, si ils avaient observé avec le réseau Fripon une augmentation du nombre de bolides depuis plusieurs jours. Yasmina hésita un instant avant d'insérer en pièce jointe une image caractéristique des images rejetées pour illustrer son propos. Elle ne savait pas si Laurent aurait été d'accord, mais Yasmina était persuadée qu'avec un exemple éloquent, elle obtiendrait plus facilement une réponse rapide. Elle envoya son mail à 10h43. Aurélie Mondrian, qui était astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille et qui faisait partie de la collaboration Fripon, était parmi les destinataires. Ce jeudi 14 août, elle participait à un congrès de planétologie qui se tenait depuis le début de la semaine sur le campus marseillais de Lumini, dans l'écrin des Calanques. Alors que le congrès se terminait sur une dernière présentation consacrée au volcanisme de Io, le satellite suractif de Jupiter, Aurélie lut la notification sur son téléphone à l'abri des regards de ses collègues. Elle lut le mail et ouvrit la pièce jointe. La vache! Aurélie fit tout de suite le lien avec ce que lui avait dit la veille son contact du radar GRAVE qui traçait les traînées des bolides pour Fripon. Aurélie avait planifié de partir en congé directement après la fin du congrès, aux environs de 13 heures, après avoir salué comme il se devait ses anciens et futurs collaborateurs et collaboratrices, avec qui elle avait passé une si sympathique semaine à discuter de géologie et de tectonique sur d'autres planètes, non seulement dans la salle de conférence, mais aussi en arpentant, le soir venu, les chemins rocailleux des calanques de Sugiton qui dominaient la Méditerranée. En tant que régionale de l'étape, Aurélie faisait partie de l'équipe d'organisation du congrès et elle ne pouvait pas décemment s'éclipser plus tôt. Le numéro de téléphone de la doctorante de l'Observatoire de Paris était indiqué dans la signature de son mail. En se dirigeant vers le grand portail de l'entrée du campus, Aurélie composa son numéro. Il était 13h26. Quand Yasmina décrocha, Aurélie s'assit à l'ombre sur un banc qui lui tendait les bras. Bonjour, je suis Aurélie Mondrian, du LAM à Marseille et de la collaboration Fripon. J'ai lu ton mail il y a quelques minutes. Bonjour, merci beaucoup de me rappeler. J'avais peur de ne trouver personne à ce moment de l'année. Nous ne sommes pas encore tous en vacances, même si ça se rapproche fortement. Alors, j'ai une information importante à te donner pour ce qui concerne les bolides. Yasmina écoutait son interlocutrice avec une attention exacerbée. Je n'ai pas les dernières données de Fripon des derniers jours, hein, parce que généralement on se met en pause au mois d'août, surtout pendant les perséides. Donc je ne peux pas te dire si nous voyons effectivement plus de bolides qu'en temps normal, mais je peux aller vérifier les dernières remontées si besoin. En revanche, il faut savoir que dans Fripon, nous travaillons avec des militaires qui exploitent un radar pour détecter les signaux électromagnétiques des rentrées atmosphériques. Et ce radar est aussi notamment utilisé pour détecter les débris orbitaux. Les gens qui travaillent sur cette surveillance en France sont en lien étroit avec leurs homologues américains. Et il se trouve que c'est moi qui fais le lien entre la collaboration Fripon et le commandement du radar grave. Yasmina souriait devant son téléphone. Aurélie poursuivait. Ce que je voulais te dire, c'est que mon interlocutrice m'a dit pas plus tard qu'hier qu'il y avait une très forte augmentation de débris spatiaux depuis le 6 août. Les Américains et les Français observent la même chose. Ils ne savent pas quelle en serait l'origine, mais le nombre de débris semble augmenter de façon continue. Donc, il n'est pas impossible que, une semaine plus tard, on commence à voir certains débris rentrer dans l'atmosphère. C'est possible que ce soit lié à la destruction du télescope japonais X-Prism. C'était en juillet, hein, je ne pourrais pas l'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que mon interlocutrice de grave semblait très préoccupée par la situation, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Surtout le fait que ce ne soit pas une simple augmentation ponctuelle, mais une augmentation qui se poursuit. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un satellite qui était fragmenté tous les jours depuis une semaine, c'est ça? Pas forcément un nouveau satellite tous les jours, mais des débris qui produisent un plus grand nombre de débris. Je suis persuadé que c'est ça qu'on voit dans nos images. Mon directeur de thèse m'a montré que le taux de rejet de nos images polluées est justement en augmentation depuis une semaine. Je crois que le télescope du Vera Rubin est suffisamment sensible, hein, pour enregistrer des rentrées atmosphériques qui ne seraient pas considérées comme des bolides, hein, par Fripon. Il est donc probable que Fripon ne voit pas d'augmentation à ce stade, mais que ce que vous voyez serait bien lié à ce nombre de débris en augmentation continue. Ok, merci. Pour en savoir plus, je peux te conseiller de t'adresser au centre de surveillance des débris de l'armée de l'air et de l'espace, ou bien directement à leurs homologues américains, à la NASA ou au Space Surveillance Network, qui ont signalé cette recrudescence au même moment. Je vais t'envoyer mes contacts par mail. Merci beaucoup, c'est très gentil. De rien, je vais pouvoir partir en vacances maintenant, répondit Aurélie. J'avais juste une dernière question. Oui? Vous disiez que le nombre de débris augmentait tous les jours, mais est-ce que ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter? Fit Yasmina. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Il faut espérer que ça s'arrête vite, hein, mais ça, ce sont les spécialistes de la surveillance qui pourront te le dire. Ok, je leur demanderai plus d'explications sur le phénomène. Merci encore de m'avoir contacté. Je vous souhaite bonnes vacances alors. Merci et bon courage pour la suite de ta thèse. Merci.